Il a dit, celle qui s'en charge de ta maison, tu prendras soin de leur maison. Et voilà, Seigneur, toutes ces bénédictions, nous ne pouvons pas rester sans mot. Toutes ces bénédictions, nous ne pouvons pas rester sans mot. Et voilà, nous te donnons encore une fois ce chant. Et voilà, nous te donnons encore une fois toute gratitude. Tu es puissant pour sauver. Tu es puissant, tu ne changes pas. Tu es puissant pour guérir. Reçois, reçois, reçois.
Avant que nous étions même dans le ventre de nos mères, lui, il nous connaissait déjà. Il dit, il a un projet de paix et non un projet de malheur. Il a dit, il a un projet de bénédiction et non de malédiction pour toi. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Seigneur, je ne crains plus ce que mes ennemis ont comme projet pour moi. Parce que je sais le projet que toi tu as pour moi. C'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est pour cela que je m'accuse encore une fois à toi. Parce que c'est toi le Dieu de ma destinée. C'est toi le Dieu qui a forgé ma vie. Avant que je n'aisse même à parler, avant que je ne formule les mots, tu sais directement ce que je vais parler. Avant que je ne dise à rien, Père éternel, toi tu connais directement ce que je vais dire. Et quel grand Dieu que nous servons. Quel grand Dieu que nous servons. Tu es là, ta famille ne va pas bien. Tu peux juste élever un mot. Tu peux juste élever ta main à prier pour ta famille. Tu peux juste élever ta main à prier pour ta famille. J'aime. Alléluia, Dieu, tu es présent. Il a dit, là où deux ou trois se réunissent à son nom, il est là présent avec nous. Il est là présent avec nous. Alors parle-lui comme un ami. Dis, papa, je suis ici, mais ma famille a encore un besoin de toi. Dis, papa, je suis ici, mais mon travail a encore besoin de toi. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu t'impliques encore une fois. Mon cas a besoin de toi. Prie à Dieu. À ses dieux. Qu'est-ce qui est impossible à ses dieux? Un Dieu qui contrôle tout. Il est là présent. Il est là présent. Ne prends pas ces moments en vain. Ne minimise pas ces moments. Parle à ses dieux. Il est là présent. Il est là pour nous toucher. Il est là pour nous faire du bien. Il attend seulement et il répond. Il attend seulement et il agit. Oh! Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est ces moments qui nous a été donné. Il n'y aura pas des moments comme ceci. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est là présent. Il est là présent.
Acclamons très fort notre Dieu. 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 Dans l'entretemps, le prédicateur va venir. Bienvenue.
Shalom, peuple de Dieu. Nous continuons à dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, non seulement d'être compté parmi les vivants, mais bien plus d'être compté parmi les présents dans sa présence cet après-midi. La bonne chose, c'est que quand vous lisez la Bible, les disciples étaient toujours cités nommément pendant qu'ils étaient réunis ensemble dans la prière. Et je suis très sûr et certain que le Seigneur nous a compté énormément aussi ce jour et il nous comptera encore énormément pour sa gloire. Et de cette manière-là, il connaît bien ce dont chacun de nous a besoin. C'est pourquoi nous allons juste faire une prière. Le Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous avons juste besoin de toi, rien d'autre, rien que toi. Prions. Éternel notre Dieu, qui est comparable à toi? Tu es saint, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut égaler à toi, ni moi, qui ressemble à toi. Tu es unique à ton genre, tu es trois fois saint. Merci pour l'invitation que tu nous as donnée ce jour. Et merci aussi pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous a attirés dans ta présence chacun individuellement. Merci pour cette grâce, ce privilège que tu nous offres. Nous sommes là juste pour toi. Viens parler au cœur de chacun de nous, parce que tous réunis en ces lieux, nous avons besoin rien que de toi. Permets que nous puissions disparaître, que toi tu croisses et que ta gloire te revienne parce que tu vas te glorifier. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ en ces lieux et dans la vie de chacun de nous pour ta gloire. Tu nous connais bien, viens nous rencontrer dans nos besoins. Merci pour ta parole. Tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous croyons à la guérison par ta parole. Nous croyons à la délivrance par ta parole. C'est pourquoi nous croyons que tu vas faire tomber des forteresses. Parce qu'il n'y a pas d'assez grande montagne que tu ne peux pas escalader pour nous chercher. Il n'y a pas d'aussi grande ténèbre que tu ne peux pas éclairer parce que tu es à notre recherche. Nous nous attendons à toi. Sois béni et sois glorifié. Nous te prions parce que nous croyons. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Et nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, sentez-vous aussi accueillis avec nous à la table du Seigneur où nous voulons manger de son pain, le pain de sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diexos Ameni, un des anciens de l'Église dans cette paroisse. Depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler de thème intitulé « Persécuté, mais non abandonné ». Et hier, nous avons traité du thème qui disait « Dieu vous a dévancé dans la fournaise ardente ». Et de ce sujet, si nous pouvons faire un petit rappel, nous pouvons retenir ces quelques vérités qui sont ressorties du message d'hier. Hier, nous avons appris que nous devons être à Babylone sans avoir Babylone à nous. Une manière de dire que nous devons être dans le monde sans avoir le monde en nous-mêmes. Parce que tout est question d'adoration. Nous avons aussi retenu que la connaissance de Dieu va toujours de pair avec la soumission à la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, plus que nous disons que nous les connaissons, plus nous devons devenir de plus en plus humbles et plus nous devons nous soumettre à l'autorité et à la souveraineté de Dieu. Nous avons aussi retenu que notre premier devoir, notre devoir suprême, c'est d'adorer Dieu avant toutes choses. Donc l'adoration de Dieu doit être la priorité des priorités dans la vie de chacun de nous. Et là, nous nous sommes rappelés cette vérité que Dieu nous dévancera toujours dans les endroits où il nous enverra, parce que aussi il y sera visible lorsque nous y serons. Et là, nous avons compris que le Seigneur a recueilli les trois jeunes gens, compagnons de David, de Daniel, dans la fournaise, et il les a retenus avant même qu'ils ne tombent dans la fournaise. Parce que vous allez vous souvenir que le feu a pris les soldats qui étaient venus les jeter, mais n'a pas brûlé ces trois jeunes. Ce qui veut dire, avant même qu'ils n'atteignent le niveau du feu, le Seigneur étant avec eux, étant en eux, les a recueillis et il les a protégés. C'est pourquoi, si le Seigneur permet que nous puissions passer par telle ou telle autre circonstance, allons-y paisiblement, dans la quiétude, parce que le Seigneur nous a dévancés. Aussi, nous avons retenu que Dieu invite nos ennemis à la table de notre couronnement. parce qu'il est celui qui apprête une table devant nos ennemis pour que nous puissions être bénis par sa présence. Nous avons aussi retenu que si tu es dans une difficulté, tu dois comprendre quelle est la dimension de ta foi actuelle. Parce que le Seigneur nous a fait voir qu'il ne peut pas permettre que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. De l'autre côté, nous avons retenu que lorsque nous sortons vainqueurs, ça veut dire lorsque nous arrivons à passer honorablement à travers les difficultés, ce qui d'autre manière veut dire passer par des difficultés mais restant attachés au Seigneur, alors nous élevons les standards d'adoration de notre Dieu dans l'envie de ceux qui sont autour de nous. Alors bien-aimés, nous pouvons amener beaucoup de gens à adorer Dieu avec nous de la manière dont nous comportons à travers des moments difficiles que nous traversons. C'est pourquoi ce jour, dans la même perspective de ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour faire face au moment d'adversité, nous allons ouvrir nos Bibles et lire Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous allons lire les 15 premiers versets et puis nous allons sauter au verset 37 jusqu'à la fin. Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous lisons au verset 1 dans la version Louis II. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route qui du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où tous les bâtiments devaient décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et nous tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur les rivages et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur les navires et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en plairant et en méprisant les cœurs ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Après ce jour-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Verset 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre les peuples, contre la loi et contre les lieux. Contre ces lieux, il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fit émis et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte de que tout Jérusalem était à confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux, voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais les Grecs ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, » reprit Paul de Tarse, « à Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit, et Paul parla en langue hébraïque et dit, « Homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette longue lecture, nous voulons nous rappeler le thème de ce jour qui est intitulé « Jusqu'où êtes-vous prêts à aller dans votre engagement en tant que disciple ?» Jusqu'où êtes-vous prêts à aller dans votre marche, dans votre vie de disciple ? Alors, frères et sœurs, lorsque nous faisons suite au partage que nous avons eu hier, à la lumière de ce texte, nous voulons nous poser cette question chacun, afin de trouver l'occasion d'évaluer comment nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans des moments difficiles, nous traversons des moments difficiles d'une manière ou d'une autre. Nous sommes exposés, nous sommes persécutés. Et Paul a dit, mais nous ne sommes pas abandonnés. Et donc, dans cette persécution, dans ces moments durs que nous traversons, comment nous allons nous tenir? Alors, très rapidement, aux trois choses que nous avons retenues la fois passée, nous voulons ajouter trois autres pour ce jour, à travers ce texte. C'est un texte qui est familier à beaucoup d'entre nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails du contexte du texte, mais nous retenons une chose que ça se circonscrit dans le voyage missionnaire de Paul. Et ici, il vient de commencer un long voyage qui va l'amener jusqu'à Jérusalem, où il sera mis en prison et condamné. Et donc, la première des choses bien-aimées ce jour que nous devons retenir, lorsque nous sommes en train de réfléchir sur jusqu'où nous sommes prêts à aller dans notre engagement ou dans notre vie de disciples, la première des choses que nous devons retenir, c'est que la communion fraternelle est un impératif pour tenir durant les moments difficiles. La communion fraternelle est un impératif pour tenir durant les moments difficiles. Tel que nous venons de le lire, Paul, durant ses voyages missionnaires, il a eu à faire face à beaucoup de difficultés. Et dans ces difficultés, il a eu à jouir de la compagnie des frères et sœurs, les autres disciples qui étaient déjà développés là où il était passé. Ils ont été des grands réconforts pour lui. Et cela, c'était d'une manière ou d'une autre. Les autres ont voyagé avec lui, comme nous le lisons dans ce texte. Les autres l'ont soutenu, les autres l'ont logé, comme nous l'avons vu. Et donc, bien-aimés, nous avons besoin de la chaleur des autres frères et sœurs dans les moments difficiles, afin d'être à mesure de tenir le coup. Parce que si nous nous sentons seuls, alors que déjà la tendance de souffrance, c'est de nous isoler des autres, alors nous allons risquer d'être isolés. Et si nous sommes isolés, nous serons plus fragiles à la menace de l'ennemi. Mais lorsque les frères sont là pour nous encourager, lorsqu'il y a des frères et sœurs dans la communion qui sont avec nous pour nous supporter, pour nous aider à nous tenir la main afin de marcher ensemble, continuant à nous attacher au Seigneur, alors nous serons à mesure d'aller avec le Seigneur sans brocher, quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que dans l'Église, nous sommes appelés des seuls noms. enfants de Dieu. C'est le titre que tous nous occupons. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous nous appartenons mutuellement. Et nous appartenons mutuellement, nous avons besoin les uns des autres. Personne d'entre nous ne se suffit à lui-même. Parce que nous le voulions ou pas, chacun de nous souffre à un degré qui peut être différent du degré de l'autre. Et dans ces conditions, il n'y a personne d'entre nous qui n'a pas besoin de l'aide de l'autre. Et si nous avons difficile à comprendre cela, quand même la Bible nous aide à le voir clairement. Parce qu'en lisant comment l'Esprit de Dieu donne les dons aux croyants, j'ai lu toute la Bible, je n'ai jamais vu un seul croyant qui a eu tous les dons du Saint-Esprit. Ça veut dire, il donne ceci à celui-là, il donne tel don à l'autre, parce qu'il sait que ces dons vont profiter pour le bien-être de l'autre. Et donc, bien-aimé, la communion fraternelle, elle est importante, elle est clé si nous voulons tenir durant les moments d'adversité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien la présence des frères à côté de toi lorsque tu es dans des moments difficiles commence à te construire, même s'il ne t'a encore rien donné. Parce que des fois, nous échouons à manifester, à vivre la communion parce que nous croyons qu'il ne s'agit que de bien, qu'il ne s'agit que de l'argent. Bien-aimé, même juste ta présence, elle compte beaucoup pour réconforter un frère qui est en difficulté. Étant les enfants des mêmes pères, appelés enfants de Dieu dans l'Église, il est hors de question que nous puissions nous constituer à des sous-petits groupes selon nos rangs sociaux. Nous nous appartenons mutuellement, bien-aimés. Nous avons besoin de gérer nos relations, de nous approcher des frères et sœurs sans regarder leur couleur, sans regarder d'où ils viennent. Est-ce qu'ils ont le sang de Christ en eux? Cela suffit, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Nous avons besoin les uns des autres, frères. Développons la communion fraternelle. C'est un pilier qui va nous aider à tenir durant les moments difficiles. Frères, dans cette communion, il arrive des fois que nous nous traitons de manière non digne, que nous nous blessons mutuellement. En tant que frères, en tant qu'enfants des mêmes pères, nous avons besoin de nous supporter mutuellement. Nous avons besoin de nous tenir la main, non pas nous regarder et dire « celui-là m'a fait ceci, alors désormais, j'ai décidé de ne plus faire un de trois à son égard. » Si nous n'avions pas été pardonnés, bon, mais allons voir, nous avons été pardonnés quoi? Nous étions morts. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Loin de Dieu, séparé de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il est venu vers les morts. Qu'est-ce qu'on peut gagner, frère, lorsqu'on aime un mort? Qu'est-ce qu'on gagne? Même les personnes que nous disons, nous les aimons, il suffit que Dieu reprenne le souffle. Je n'ai jamais vu personne qui va passer nuit juste à côté des cadavres dans la morgue parce qu'il l'aime tellement. Mais le Seigneur nous a aimés, nous étions morts, c'est ce que Philippiens nous dit. Et dans son amour, il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous qui étions morts, nous puissions être appelés ses enfants. C'est de là, frères et sœurs, que nous avons été tirés. Nous avons été pardonnés. Ayant été pardonnés dans cette communion fraternelle, pardonnons-nous mutuellement. Nous sommes encore dans cette marche où nous apprenons à marcher avec Dieu. Il peut arriver que nous allons nous blesser sans l'avoir planifié de cette manière-là. Tout ce qui nous est demandé, c'est de nous supporter mutuellement et de nous pardonner mutuellement. Es-tu en communion avec d'autres? Parce qu'il ne suffit pas d'être ensemble pour dire qu'on est en communion. Les bénédictions de la communion ne seront matérialisées que là où il y a l'unité. C'est ce que la Bible dit. Deuxième chose que nous devons retenir cet après-midi, par rapport à ce qui est attendu de nous comme enfants de Dieu, si nous voulons bien continuer dans cette marche, c'est que nous devons avoir la connaissance de ainsi dit l'Éternel par rapport à notre situation. Tu es dans une situation difficile. Nous sommes dans une situation difficile en tant que nation, en tant qu'église, en tant qu'individu. Mais est-ce que nous avons eu à chercher Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu dit au sujet de notre situation? Ou qu'est-ce qu'il a déjà dit? Parce qu'il peut l'avoir déjà dit et nous nous fermons les oreilles comme si nous n'avons rien saisi. Et ça va nous amener à continuer à avoir des difficultés, à marcher avec lui dans ces difficultés, parce que nous ne savons pas ce qu'il a comme point de vie quant à ce. Savez-vous qu'en tant que Congolais, nous sommes une nation bénie, une nation qui doit servir pour proclamer la gloire de Dieu, pas seulement en Afrique, mais au monde entier. Une nation qui doit montrer le modèle de l'adoration à d'autres nations. Et souvent, que le degré de la persécution que vous allez subir, il est aussi proportionnel au degré de la mission que vous portez. Alors, bien-aimé, lorsque tu comprends qu'est-ce que Dieu a dit de cette situation que je suis en train de traverser, ça t'aide déjà à savoir comment naviguer dans les difficultés de la vie. Parce que nous devons savoir, bien que la vie peut être difficile, mais les difficultés que toi et moi, nous traversons, que l'Église peut traverser, que la nation peut traverser, n'effaceront jamais les promesses de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement fidèle à sa parole, à telle enseigne que s'il l'a dit, il l'accomplit, même si nous avons déjà oublié. Parce qu'en tant que parents, des fois nous promettons des choses aux enfants, n'est-ce pas? Et vous rentrez de la ville, vous avez oublié d'acheter ce que vous avez promis. Et quand vous voulez arriver à la maison, vous vous rendez compte que vous avez oublié. Il suffit que les enfants ne demandent pas. Vous n'allez pas revenir à cela, c'est déjà passé. Donc notre fidélité en tant qu'homme, en tant qu'humain, des fois ça dépend de comment nous nous sentons. Mais ce n'est pas légal pour Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, il se rassure qu'il l'accomplit, même si nous avons déjà oublié. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de nous attacher à ce Dieu. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Souvent, les moments difficiles ont des caractéristiques à tourner nos regards vers ces difficultés que de tourner nos regards vers Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nous tourner vers Dieu afin de découvrir qu'est-ce qu'il dit. Parce que lorsque nous allons découvrir ce qu'il dit, bien-aimés, nous serons apaisés. Même si la tempête n'est pas encore apaisée, nous serons apaisés parce que nous saurons que ça c'est un match qui est déjà fini. Nous connaissons la finalité et connaissant la finalité, même si les vagues montent jusque dans la barque, nous sommes sûrs et certains que nous irons jusqu'à l'autre bord. Alors dans ce texte que nous avons lu, parce que nous ne devons pas perdre de vue, nous sommes en train de réfléchir sur la question jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette vie des disciples. Nous voyons le Saint-Esprit s'est révélé, parler, il a donné un message clair au sujet de son serviteur Paul. Mais quand vous lisez ce texte, vous ne voyez pas à quel moment l'Esprit a parlé à Paul au sujet de sa situation. Mais il va plutôt le révéler à d'autres frères qui étaient avec lui dans la maison. Et ce frère ayant reçu la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, pour ce qui va arriver à Paul à Jérusalem, il va demander à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Mais quand vous lisez ce texte, vous voyez Paul ne pas les écouter, mais aller continuer sa route jusqu'à Jérusalem. Est-ce que nous voulons dire que Paul a désobéi au Saint-Esprit? Parce que la Bible a dit, poussé par le Saint-Esprit, les disciples avaient demandé à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Non, bien-aimé, Paul n'a pas désobéi au Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez la suite du texte, le Saint-Esprit avait révélé ce genre de souffrance que Paul va endurer à Jérusalem. Et les disciples, parce qu'ils aimaient tellement Paul, ils avaient peur de la souffrance que ce frère va endurer. Ils ont dit, la meilleure façon de faire, c'est de fuir. Et s'il faut fuir, il faut dire à ce frère de ne pas aller là-bas. Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. Ces bien-aimés, par leur peur, ils veulent dissuader Paul de continuer sa route. Heureusement, le Seigneur étant merveilleux, il ne nous laisse jamais dans la confusion. S'il trouve que nous n'avons pas bien compris, il prend le soin de revenir nous clarifier les choses. Il a envoyé un autre serviteur pour aider Paul à avoir la clarté dans ce qu'il devait faire. Mais même avant cela, Paul a eu la grâce d'avoir le discernement. Il a compris, parce que quand vous lisez déjà au verset 4, c'est là que la révélation était sortie, mais déjà à partir du verset 5, il refuse de rester là-bas, mais il continue son voyage. Pourquoi? Parce qu'il était capable de déceler les messages de Dieu séparément des sentiments des communicateurs du message de Dieu. Il arrive des fois, aujourd'hui, actuellement, nous faisons la course derrière les révélations. On veut savoir, Dieu dit quoi par rapport à ma vie? Dieu dit quoi par rapport à ma situation? Et les chrétiens sont en train d'aller de chambre de prière à chambre de prière, de prophète à prophète. Mais partout où vous allez là-bas, bien-aimés, avez-vous l'esprit du discernement pour savoir que ce qui est dit, c'est ça, c'est que l'Éternel est en train de dire? C'est facile de dire, j'ai vu, le Seigneur m'a révélé. Mais il faut être aussi à mesure de distinguer. Est-ce que ce qu'il a révélé, il t'a dit de le communiquer ou non? Parce que nous pouvons créer beaucoup de problèmes à d'autres dans cette marche par le fait du manque de la sagesse et de l'esprit du discernement. Il ne suffit pas de dire, le Seigneur l'a dit. Mais nous devons nous rassurer que c'est ça. Mais regardez, dans cette quête de révélation, tout ce dont nous rêvons, c'est que si on doit venir vers moi et me dire, le Seigneur m'a dit, voici Dieu exaucé par rapport à ta vie. Tout ce que nous attendons, ce sont des révélations qui nous annoncent la prospérité, qui nous annoncent le bonheur, qui nous annoncent l'épanouissement. Mais quand nous lisons ce texte, le Seigneur a parlé. Et lorsqu'il parle, ce n'est pas un message de joie. Mais c'est Dieu qui le révèle, non? Il va prophétiser sur la vie de Paul. Et il dit, là où il va, là-bas, on va les lier, il va souffrir. Regardez, celui dont on parle ici, c'est le serviteur fidèle de Dieu. Et Dieu est en train d'annoncer sa souffrance, sa persécution. Mais il souffre pourquoi? A-t-il péché? A-t-il désobéi? Tout ce que le Seigneur cherche ici, c'est accomplir tout ce qu'il a dit par rapport à Paul. Et dans tout ça, il veut que son nom ou le nom de Christ soit prêché au grand. Si tu as une mission vers les grands, tu dois savoir que cet appel-là a aussi des grandes adversités. Le Seigneur a envoyé le prophète à Gabus et il vient. Il rejoint Paul dans une autre maison où il y avait d'autres prophétesses. Et l'Esprit le saisit et il dit, le Saint-Esprit dit ceci, les propriétaires de cette ceinture, on va les lier tels que vous me voyez liés ici, à Jérusalem. On ne va pas seulement les lier, mais au-dessus de cela, on va les livrer aux païens. Regardez la réaction de Paul. Paul refuse d'être dissuadé et cesser d'aller à Jérusalem. Et là, il est en train d'envoyer un message clair à ses bien-aimés. Il leur dit, à d'autres termes, que vous inquiétez pour peu de choses. Il confirme qu'il est prêt à mourir. Et donc ici, Paul ne veut pas se laisser dérouter de la direction que Dieu lui a demandé de prendre. C'est pourquoi il leur dit, s'il vous plaît, ne laissez pas chagriner mon cœur par vos pleurs. N'insistez pas. Moi, je suis non seulement prêt à être lié, mais bien plus, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Frère, s'il vous était dit que là où vous allez là-bas, vous n'allez pas revenir, et qu'on vous détaille tout ce que vous allez endurer comme souffrance, est-ce que moi et vous, nous pouvons continuer le chemin? Nous serions nombreux, nous qui allions faire demi-tour. Mais en lisant ce texte, nous voyons Paul refuser, parce que ça c'est la deuxième fois qu'il refuse de rentrer. Conscient qu'il va souffrir, il continue sa route. Bien-aimé, vous ne saurez jamais rester dans la direction divine si vous ne connaissez pas parfaitement ce que Dieu vous a demandé d'emprunter comme chemin. Si vous êtes dans les « je crois, je pense », facilement, vous serez dérouté.
Et malheureusement, ça peut se faire même par les frères qui n'ont pas de pitié pour vous. Ils peuvent vous dérouter de la voie que Dieu vous a demandé d'emprunter. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons besoin de la connaissance. Qu'est-ce que Dieu dit? Et ça, nous n'allons pas savoir si nous sommes dispersés. Nous devons être des hommes et des femmes attachés à la parole. Des étudiants de la parole. Des gens qui passent du temps avec lui. Le problème que nous avons, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas le temps pour cela. Le monde tourne à une vitesse très vertigineuse, si bien que tout ce qui nous préoccupe, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Beni, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa. Tshisekedi, il est parti où? Il rentre quel jour? Bon, les élections, c'est comment? Il y a beaucoup de choses qui nous embrillent et nous n'avons pas de moindre temps avec le Seigneur. Bien-aimés, hier nous avons dit que le Seigneur, pour parler à ses bien-aimés, il les retire dans le désert pour avoir du temps à cœur avec eux. N'attendons pas, frères et sœurs, que le Seigneur nous soumette à de l'adversité pour apprendre à chercher sa face. Nous pouvons les chercher pendant que nous avons encore la facilité de les faire et ne pas attendre de les chercher pendant que nous sommes contraints de les chercher. Parce que quand vous êtes dans une souffrance, on n'a pas besoin de vous dire que vous devez prier. Non. On n'a pas de vous enseigner comment vous allez les faire. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous-même, la situation vous impose la manière. Si vous allez gêner, si vous allez faire une veillée par vous-même, la situation va s'imposer à vous. Pourquoi ne pas commencer maintenant, pendant que vous avez encore des énergies, vous pouvez ressourcer votre esprit par cette fraîche parole, afin de savoir la direction que Dieu veut que vous puissiez prendre, afin d'y tenir, quelle que soit l'adversité. De ce texte, nous pouvons comprendre que Paul connaissait bien ce à quoi il est appelé. Parce que quand vous lisez Actes 9, 15, et quand vous lisez le chapitre 22, le verset 15 et 14, vous découvrez que sa mission, c'était de porter l'évangile aux grands, aux rois, aux nations. Et pour que cela arrive, il a fallu qu'il soit malmené à Jérusalem pour qu'il soit accusé et qu'il plaide qu'il est romain pour être envoyé jusqu'à Rome afin qu'il arrive à prêcher à l'empereur face à face. Et donc, bien-aimé, Paul, malgré ce qui lui attend, il avait la paix dans son cœur. Il nous enseigne que malgré les adversités dans lesquelles nous sommes, c'est possible d'avoir la paix. La paix dans la souffrance, il est toujours possible de l'avoir. Je me rappelle un moment quand le Seigneur m'appelait à le servir à travers le ministère de EE. Après avoir quitté le travail où j'étais, une semaine après mon départ de la ville, parce que je devais suivre une formation de 2 mois en dehors d'ici, les bandits sont arrivés à la maison, la nuit. Et j'avais une question à moi-même, mais Seigneur, quand même je viens d'abandonner un contrat pour toi. Je suis en dehors de ma maison pour toi. Tu as échoué vraiment de garder ma petite famille. J'ai dit aux amis avec qui nous étions en formation, les bandits sont arrivés chez moi hier. La situation n'est pas facile à la maison. Juste une semaine après, j'avais encore presque 1 mois et demi d'absence à Gom. Pendant que je raconte l'histoire aux gens, bon, je trouve comme si bon, ils ne s'inquiètent pas trop comme je l'attendais. Je me dis, est-ce que ces gens sont des chrétiens ou bien je suis dans quoi au fait? Et j'ai fait 3 jours en train de me lamenter de cette situation. Et le 3e jour, le Seigneur m'a rassuré. Pendant ce temps, mon épouse était déjà logée chez mon cousin parce qu'elle avait dit, moi, dans cette maison-là, seule encore, non. Et le Seigneur m'a rassuré, je suis avec toi. J'ai expérimenté une paix, même si la situation n'avait pas encore changé parce que mon épouse était chez le cousin. Bon, les objets de la maison étaient déjà éparpillés dans les familles, selon que chacun avait de l'espace. Donc ma famille était presque dehors. Mais le Seigneur m'a rassuré, je suis avec toi. Et j'ai expérimenté ce cantique que nous chantons sans comprendre. La paix dans la souffrance. Le Seigneur, bien-aimé, il est capable de nous donner la paix, quelle que soit la souffrance à laquelle nous sommes soumis. Pourquoi? Parce qu'il nous rassure de sa présence permanente. Une présence qui est agissante. On n'a pas seulement besoin de croire que cette présence, elle est inerte. Non, c'est une présence agissante, même lorsque nous ne le sentons pas. Même lorsque nous avons l'impression comme s'il est absent, il est toujours là à l'œuvre. C'est pourquoi il te chuchote ce soir à ton oreille, « Je suis avec toi ». Tu peux compter sur ce qu'il te dit, parce que c'est ça, il est avec toi. Quelle que soit l'adversité, va dans sa face, parce qu'il va te rassurer de sa présence. Et tu seras en mesure d'expérimenter la paix, même si la situation n'a pas encore changé. Troisième des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu dans cette marche, nous avons besoin d'avoir la détermination à plaire Dieu, quel que soit le prix à payer. Nous l'avons déjà dit de plusieurs manières à travers ces éléments que nous venons de faire. Au deuxième point, Paul, il a tenu, bien qu'il savait qu'il va mourir. Mais je me suis quand même posé une question. Qu'est-ce qui amène Paul à avoir cette confiance totale? Alors j'ai trouvé une réponse dans Actes au chapitre 20, le verset 24. Paul dit ceci de sa bouche, « Moi, j'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. » Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est bien aimé, il ne regardait pas sa vie comme quelque chose dans laquelle on doit s'attacher à tout prix. Tout ce qu'il voulait, c'était de plaire au maître, même si il doit perdre sa vie. Et donc, bien aimé, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons accepter de recevoir tout ce qui viendra avec cette volonté-là, y compris la souffrance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, « Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. » Tu veux vivre pieusement? Tu veux plaire au Seigneur? Oui, attends-toi à la souffrance. Ça fait partie de ta vie en Christ. C'est pourquoi il n'y a que ceux qui se sont déjà entièrement donnés à Dieu qui vont être à mesure d'aller jusqu'au bout avec lui, quelles que soient les difficultés. Hier, j'ai parlé de Stéphane, Étienne, qui il est en train d'être lapidé. Mais comme il s'était déjà donné entièrement à Dieu, le Seigneur ouvre le ciel, il voit la gloire là où il va. Il dit, non, tapez-moi. Mais Seigneur, pardonnez ceci, et ne comprennent pas, mais moi, c'est là que je vais. Quand le Seigneur vous ouvre la fenêtre de voir la gloire dans laquelle il est en train de vous amener, bien-aimé, vous êtes à mesure de continuer à vous attacher à lui, quel que soit le prix à payer. Et là, nous devons comprendre que vous ne pouvez pas arriver à vous concentrer sur votre propre vie et arriver à plaire au Seigneur. Ça ne va pas, ça ne passe pas. Il a dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à soi-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il a ajouté lui-même, celui qui sauvera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de mon nom la sauvera. Ma question, nous sommes dans des moments difficiles. Es-tu en train de sauver ta vie ou es-tu en train de la perdre? Vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous sommes tellement attachés à la vie que nous voulons vivre la vie à notre manière. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que lui vienne vivre sa vie à nous. Savez-vous que nous n'avons pas de capacité de plaire à Dieu par nous-mêmes? Nous n'en avons pas. Et donc, nous avons besoin de laisser Dieu vivre sa vie en nous parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'obéir à Dieu. Même si personne n'aime la souffrance, nous sommes appelés, si nous voulons plaire au Seigneur, nous devons le laisser vivre sa vie en nous. Il est temps que nous puissions nous abandonner totalement. Parce que c'est lui la vie. Si nous sommes loin de lui, nous n'avons pas la vie. Même si nous prétendons avoir tout ce que nous voulons. Salomon en a eu. Et lui-même déclare que j'ai donné à mon corps tout ce que j'ai voulu. Tout, sauf rien. Et dans sa conclusion, il dit tout ça, c'est la vanité. Alors pourquoi nous courons derrière la vanité, bien-aimé, au lieu de courir vers l'essentiel? Parce que lui-même, il a conclu en disant, tout ce qu'un homme peut faire, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi Paul était réveillé et il n'a pas regardé à la souffrance. Connaissant ce qu'il va endurer, il a trouvé que c'est mieux que l'esprit continue à vivre sans vie en lui, que lui continue à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Lorsque vous êtes réveillés, vous et moi, ce qui veut dire que lorsque vous et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Même s'il faut mourir, vous irez jusqu'au bout. Savez-vous, bien-aimé, que les histoires des expériences avec Dieu, de nos frères qui nous ont dévancés dans la foi, nous condamnent? Parce que nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Il dira à Dieu exauce. Comment tu peux arriver à me renier alors que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient prêts à être jetés dans la fournaise? Nous n'aurons pas d'excuses. Il nous posera la question. Vous refusez de prier, vous refusez de me chercher. Eh oui, mais Élie était un homme de la même nature que toi. Et il a prié. Alors bien-aimé, lisons ces expériences des frères précédents avec un autre regard. Nous devons comprendre que nous n'avons pas d'excuses parce qu'ils ont plu au Seigneur étant dans la même chair que moi et toi nous portons. Suis-je réveillé? Es-tu réveillé pour aller jusqu'au bout? Jusqu'où? Moi et toi, sommes-nous prêts à aller dans notre engagement des disciples de Dieu? Dans notre engagement, dans notre marche avec Christ, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Paul, même jusqu'à la mort, il était prêt à continuer à plaire au Seigneur. Combien ne se sont pas compromis juste pour un petit boulot? Oui, je l'appelle petit, même si ça vous donne de grands revenus, parce que ça ne vous donnera pas accès au ciel. Et si vous ratez le ciel, vous avez tout raté. Même si nous vous avons laissé tout ce monde et toutes ces richesses à vous seul, vous avez tout raté. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas à nous, frère, il est impossible de tenir dans les moments d'adversité. N'avez-vous pas déjà qu'il y a des richesses qui se pendent? Parce que si la richesse signifiait tout, alors ceux-là n'arriveraient pas à se suicider. Il y a celui qui est tout, bien-aimé, et c'est lui dont nous avons besoin. Parce que si lui, il est à nous, il va nous réveiller. Et lorsqu'il va nous réveiller, nous serons remplis de son Saint-Esprit et nous serons prêts à aller avec lui jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et même lorsqu'il va nous révéler à nous-mêmes que nous allons mourir, nous allons nous attacher à lui malgré la douleur que nous allons endurer jusqu'à la mort. Êtes-vous prêt? Suis-je prêt à mourir? Parce que je veux à tout prix ne pas me compromettre. Nous allons nous reposer cette question dans une attitude de prière. Tu vas juste incliner ta tête. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Mais moi, je comprends que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de le laisser régner sur ma vie. J'ai besoin de le laisser prendre le contrôle. Parce que si lui n'est pas là, je ne serai pas à mesure d'aller jusqu'au bout. Parce que la souffrance, elle est déjà là. Que j'accepte Jésus, que je refuse. La souffrance, elle est inhérente à la nature humaine. J'ai besoin de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu as besoin de Dieu. Voudrais-tu te recommander entre ses mains? Il a les bras ouverts. Il t'a aimé dans la mort. Tu étais mort, il t'a aimé. Il s'est donné à la croix pour toi. Et avant que tu n'acceptes cette œuvre, tu ne sauras pas aller jusqu'au bout avec lui. C'est impossible. Tu as déjà commencé ta marche avec Dieu. Demande-lui la force de t'amener de l'avant. Allez de perfection à perfection, de gloire à gloire, qu'il t'amène. Tu peux être là et l'Esprit de Dieu t'a communiqué. Il t'a convaincu que tu n'as jamais laissé régner sur ta vie. Et qu'en dehors de cela, tu ne pourras jamais aller jusqu'au bout avec lui. N'essayez pas de ressembler aux chrétiens, tu dois l'être. Il est temps que tu confies ta vie à Jésus. Et si tu es là, tu veux laisser Jésus régner sur ta vie, tu vas juste te mettre debout, nous allons prier avec toi.
Le Seigneur t'a parlé. Tu écoutes sa voix. Continue à chuchoter dans ton cœur. N'hésite pas. Oui, quel que soit ce que le connaît de toi, parce que toutes les opinions que les gens ont de toi ne te feront pas passer pour entrer au ciel. Il n'y a que l'opinion que Dieu a de toi qui te fera passer. Prions. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et nous te bénissons pour la vie et pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tout ce que tu attends de nous, comme tu l'as fait avec Paul, c'est que nous soyons prêts à aller jusqu'au bout avec toi, quel que soit ce qui va arriver, même s'il faut y aller jusqu'à la mort, que nous soyons attachés à toi. De moi-même, je ne sais pas y arriver. De nous-mêmes, nous n'en avons pas la capacité. Tu nous as rappelé que nous devrions développer la communion pour marcher, que nous devrions avoir la connaissance de ce que tu dis. Combien ne sommes-nous pas distraits? Combien ne sommes-nous pas embrouillés? Et pourtant, le Saint-Esprit ne parle pas aux gens distraits, embrouillés. Apprends-nous à passer du temps avec toi, parce que ce n'est qu'en passant le temps avec toi que nous aurons de la force pour continuer à plaire à toi. Allez, restez déterminés à te plaire, quelles que soient les circonstances de la vie. Soutiens la foi de chacun de nous et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous te prions parce que nous croyons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.